France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pierre.
Est-ce qu'on est sûr désormais que Trump est derrière nous pour assurer la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu? Quel serait le rôle de cette force de réassurance? 26 pays dont la France en terre ukrainienne, on en parle dans un tout petit instant, avec Benjamin Haddad, ministre délégué en charge de l'Europe. Et si Nigel Farage était le prochain Premier ministre du Royaume-Uni? Question à Louise Baudet dans Le Monde à l'endroit. Le reportage retourne à Delhi ce soir, troisième volet de la série de reportages signé Combastin. On plonge littéralement dans un fleuve sacré mais qui est surtout un poison.
Vous voyez cet égout? Ce sont les eaux usées du centre de Delhi. L'eau est soi-disant traitée, mais regardez sa couleur et sentez son odeur. Il y a au moins 25 canalisations géantes qui finissent comme ça dans la Yamuna.
Un reportage à découvrir autour de 18h41. 6 morts dans les rangs de l'extrême droite en Rhénanie du Nord, tous candidats aux municipales. Est-ce que ça suffit pour faire exploser la complosphère? Pas du tout. Et puis qu'est-ce qui est pire que les réseaux sociaux pour bouffer le cerveau de nos enfants? ChatGPT, c'est ce que Stéphane Jourdain nous dira juste avant 19h. Le monde est vaste, les amis, on n'a pas une heure, allons-y.
I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think
je suis optimiste sur notre capacité collective à trouver un accord, éviter une prochaine agression contre l'Ukraine. Ça, c'était Donald Trump, mais c'était le 18 août quand il reçoit les Européens. Il semble à ce moment-là enclin, il y a eu beaucoup d'allers-retours, à être derrière les garanties de sécurité. Peut-être qu'on a fait aujourd'hui un pas supplémentaire. Bonsoir Benjamin Haddad.
Bonsoir.
Ministre délégué donc en charge de l'Europe pour que le plan de sécurité, de garantie de sécurité de l'Ukraine fonctionne après le cessez-le-feu. La coalition des volontaires a besoin de ses propres troupes sur le terrain et on y viendra, les fameux 26 pays, mais aussi du filet de sécurité des Américains. Est-ce que ce soir on dit, nous avons le filet de sécurité des Américains?
On avance, on est toujours en train de travailler, mais vous l'avez dit vous-même, si on compare il y a quelques mois, quand on nous avait dit il y a 6 mois que cette guerre allait être réglée en 24 heures entre Américains et Russes sans les Européens ou les Ukrainiens. On parlait des divisions, de l'isolement des Européens. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un alignement entre Européens, Américains et Ukrainiens pour trouver la voie d'une paix durable en Ukraine.
Sauf qu'ils ont rien
promis. Le président Trump veut mettre fin à cette guerre. Je voudrais souligner quand même le travail qu'a fait le président de la République et la diplomatie française, précisément pour nous réaligner en invitant, il y a quelques mois, les négociateurs américains à Paris, en participant au déplacement des dirigeants européens avec le président Zelensky à Washington cet été. Si on veut pouvoir avoir, après la cessation des combats, et nous y reviendrons, une paix durable, c'est-à-dire dissuader la Russie de reprendre l'agression, nous aurons besoin de garanties de sécurité. Nous aurons besoin de garanties de sécurité qui passeront par, d'abord, un soutien à une armée ukrainienne forte, indépendante. Donc quand la Russie parle de démilitariser l'Ukraine, évidemment, c'est inacceptable. Et nous aurons besoin d'avoir des présences d'Européens sur le terrain. Pourquoi est-ce que les Américains, aujourd'hui, parlent de ces garanties de sécurité? C'est précisément parce qu'ils partage cet objectif. De faire en sorte que la paix que l'on pourra signer demain sera durable et que la Russie ne l'utilisera pas pour se refaire économiquement, pour réarmer, pour réattaquer l'Ukraine.
Donc
c'est dans l'intérêt des États-Unis, des Ukrainiens et des Européens.
Est-ce qu'on lui a tordu le bras à Donald Trump pour qu'il ne dise pas non, pour dire les choses? On a bien vu qu'il avait mis lui sur la table en disant attention, il y a de la vente de pétrole de la part des Hongrois, des Slovaques à la Russie, ça il faut que ça s'arrête. Faites pression sur la Chine parce que sinon je ne serai pas content non plus. Enfin, il a mis quand même des sacrées conditions sur la table. Il joue au deal comme il le fait d'habitude en fait.
Mais ce que voit le président des États-Unis, c'est la même chose que ce que nous voyons. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur en fait qui refuse la diplomatie, qui refuse de s'y engager avec sincérité, de cesser le combat, c'est la Russie, Vladimir Poutine. En mars, le président ukrainien accepte la demande américaine d'un cessez-le-feu inconditionnel. C'est ce que les Européens et les Américains demandaient. Et depuis, les bombardements contre les civils, contre les infrastructures, contre les militaires ukrainiens continuent tous les jours. 25 morts à Kiev dans la nuit du 27 au 28 août avec 4 enfants. C'est la Russie qui continue. Le président des États-Unis, qui a fait le choix d'engager un dialogue avec le président Vladimir Poutine, voit qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine continue de choisir la guerre, l'escalade et l'agression. Et donc, on a besoin d'abord comme vous venez de l'indiquer, de continuer à faire monter la pression sur la Russie, la pression économique et la pression militaire avec la suite des livraisons d'armes. Et puis, bien sûr, après, d'avoir un cadre avec les Européens pour, et les Ukrainiens pour s'assurer que la guerre ne reprenne pas immédiatement. Alors parce que c'est aussi la crédibilité de cet accord de paix, la crédibilité de la puissance américaine et européenne.
Ça, c'est cette fameuse force de réassurance. Donc 26 pays sur l'ensemble de la coalition des volontaires, 26 pays, notamment d'ailleurs l'Allemagne qui semblait traîner des pieds, on est d'accord là-dessus ?
Alors, il y a donc en fait aujourd'hui, il y avait 35 pays qui souhaitent participer à ces garanties de sécurité, à la coalition des volontaires, 26 pays qui ont donné des précisions sur le type d'engagement qu'ils auraient. On ne rentre pas aujourd'hui dans les détails. De toute façon, encore une fois, la question aujourd'hui, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Ouais. Mais il y a 26 pays, je tiens à le souligner, parce que là aussi, l'an dernier, quand c'est la France et le président de la République qui a parlé de la nécessité de maintenir une certaine ambiguïté stratégique, de se projeter aussi sur l'avenir.
Les Britanniques, M. Haddad, ont tout de suite dit oui.
En Ukraine.
La France, on l'entend autour de ces questions-là depuis longtemps, y compris sur sa présence. Voilà.
Depuis le mois de février, qui ont lancé cette dynamique pour que les Européens prennent leurs responsabilités, parce qu'évidemment...
Mais c'est donc là, par exemple, est-ce que Merz a dit « Ok, moi aussi j'en suis » de ces 26 ?
Je ne vais pas rentrer dans les détails des échanges qu'il a pu y avoir. Le chancelier Merz était, bien sûr, dans cet échange comme dans les précédents, et les Allemands font partie de cette coalition des volontaires.
Cette force de réassurance, le président l'a redit, elle doit être terrestre, elle doit être aérienne, elle doit être maritime. Qu'est-ce qu'on imagine ? En fait, on a bien vu que ce n'était pas sur la ligne de front, ça aussi il l'a dit. Donc, comment on l'imagine ? On est d'accord, c'est en cas de cessez-le-feu, comme quoi une espèce de force qui surveille une zone de séparation. Est-ce qu'on imagine un mandat qui serait d'afficher, mais de riposter si besoin. Comment ça s'imagine, ça ?
Alors, vous avez deux piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la suite du soutien à l'armée ukrainienne, puisque la première garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est d'avoir une armée forte. Ça passera par ce qu'on appelle la régénération de l'armée ukrainienne, la suite des formations, des livraisons d'armes, mais l'intégration plus forte de nos industries de défense. Donc, on a aujourd'hui des industriels de défense français, européens, qui sont en Ukraine, qui soutiennent la montée en puissance de cette industrie défense ukrainienne qu'on a vue extrêmement innovante avec l'usage de drones. Donc ça, c'est le premier pilier, bien
sûr. Et donc,
sûr.
La force de réassurance.
Et la force de réassurance, vous savez que nous avons aujourd'hui, nous-mêmes, des troupes dans des forces de réassurance de l'OTAN, sur le flanc est, que ce soit en Estonie, dans les Pays-Baltes ou en Pologne, qui ont vocation à dissuader l'agression de la Russie. Et donc là, il s'agit de contingents européens qui ne seront en effet pas combattants, qui ne seront pas sur la ligne de front ou la ligne de contact, qui seront dans des points stratégiques de l'Ukraine et qui serviront à envoyer effectivement un signal politique de soutien et de dissuasion à l'Ukraine et puis qui continueront, ce que je disais aussi, le soutien à l'armée.
Est-ce que le risque, Benjamin Haddad, encore une fois, que les gens comprennent bien, on parle en cas de cessez-le-feu, donc on n'y est pas encore et normalement ce cessez-le-feu devrait être signé, donc ça vous fait arriver dans des conditions qui sont effectivement différentes, mais on ne peut pas s'imaginer que ça peut aussi bien ressembler à des casques bleus en Bosnie, qui ne peuvent pas bouger et qui voient passer les bombes, voire pire. Est-ce que le risque, c'est pas ça, en fait ?
Regardez aujourd'hui les forces de réassurance que nous avons en Europe de l'Est depuis l'annexion de la Crimée. Depuis 2014, nous avons fait le choix de renforcer justement la posture de dissuasion du flanc Est de l'Europe. Le risque, quel est-il ? Le risque, c'est d'avoir une posture de faiblesse vis-à-vis de la Russie. On le sait. Aujourd'hui, si vous avez des garanties de sécurité qui sont juste un bout de papier qui serait signé, mais regardez les précédents historiques. Dans les années 1990, on a demandé aux Ukrainiens d'abandonner leur arsenal nucléaire qui était issu de la guerre froide en échange de garanties de sécurité russes sur l'inviolabilité des frontières. Le fameux mémorandum de Budapest, les Ukrainiens nous le rappellent souvent, qui a été violé, bien sûr, bafoué par la Russie. Puis en 2014-2015, nous avons eu les accords de Minsk après l'annexion de la Crimée et l'envoi de troupes russes dans le Donbass, à nouveau violé par la Russie.
Mais du coup, ça veut dire, Monsieur Haddad, que
d'une force crédible, mais qui passera encore une fois.
Ça veut dire que cette force crédible doit riposter si jamais elle a besoin de le faire.
Ça doit être une force de dissuasion. Mais qui
passe.
Mais effectivement, qui signale à la Russie que nous serons aux côtés des Ukrainiens dans le temps long, et que nous serons aux côtés des Ukrainiens précisément pour prévenir une nouvelle guerre. Et d'où l'importance de ces piliers, une armée ukrainienne qui restera forte. Donc toutes les demandes de la Russie complètement extravagante de démilitariser l'Ukraine, on voit bien que c'est une façon de préparer la prochaine invasion.
Et donc une force de réassurance.
Une force de réassurance, et bien sûr de continuer si elle, à travailler avec les Américains.
Si elle riposterait, mais effectivement, ce sera une vraie question à se poser lorsqu'elle sera déployée. Monsieur Haddad...
Mais si je peux aussi rajouter là-dessus, c'est important ce que vous soulignez, parce que oui, effectivement, les Européens vont devoir s'habituer à vivre avec cette menace que représente la Russie durablement. Si demain vous avez une fin des combats en Ukraine, mais c'est pas pour autant qu'on va réduire nos budgets militaires et tous rentrer chez nous et reprendre
la vie
normale.
Prendre des risques passe aussi par l'éventualité d'avoir à riposter à partir du moment où on est dans une force de réaction.
Mais le risque, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse qui entraîne l'escalade de l'adversaire. Et demain, vous voyez la posture de la Russie. 2008, l'invasion de la Géorgie. 2014, déjà, la Crimée. Les assassinats ciblés d'opposants dans nos démocraties européennes. Les menaces contre la Moldavie. J'étais la semaine dernière en Moldavie avec les trois dirigeants de Weimar. Les ingérences en Moldavie, en Roumanie, les attaques cyber contre nos propres infrastructures.
Vous avez raison.
La Russie va faire peser une menace durable. Et la façon d'y répondre, ça passe par le soutien à l'Ukraine, mais ça passe aussi par le réarmement de nos démocraties. C'est ce que nous faisons en France en ayant doublé le budget militaire de la France. C'est ce que font aujourd'hui les Européens.
Vous avez raison, mais disons-le comme ça, il n'a pas l'air traumatisé, Vladimir Poutine, pour l'instant. On l'a bien vu sur la photo à Pékin récemment. Ce qu'il affiche, au contraire, c'est ça. Ce qu'il affiche, c'est, regardez, j'ai des alliés. Je suis assez tranquille. Est-ce que la photo que nous affichons, nous, avec la coalition des volontaires, Volodymyr Zelensky, et même le coup de fil de Trump, est-ce que ce que nous affichons, nous, peut vraiment être le pendant de la photo qu'on a vue à Pékin avec Poutine à côté de...
Déjà, moi, premièrement, c'est intéressant votre question parce que je ne ferai pas la symétrie. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, y compris dans l'appel avec le président des États-Unis, c'est effectivement une unité des Européens, des Américains, des Ukrainiens pour demander la paix, pour demander des garanties de sécurité, pour demander la fin des combats. Lorsque le président russe échange avec les homologues indiens et chinois avec qui nous-mêmes nous échangeons régulièrement, moi, j'ai entendu l'Inde et la Chine demander aussi la paix, la fin des combats. Et c'est le président russe qui continue l'escalade et qui continue cette fuite en avant. Donc, je n'y verrai pas forcément une unité géopolitique ou une unité de vue sur la question.
Dans la conversation d'ailleurs, les Chinois, à votre avis ou pas ?
De l'Ukraine.
Ils y ont été, ils en sont partis. On les remettrait volontiers ou pas du tout ?
Mais vous savez, le président de la République a plusieurs reprises échangé avec les Chinois, avec le dirigeant chinois, demandé aussi la contribution de la Chine. Mais après, c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur du continent européen. C'est pour ça que c'est d'abord aux Européens, avec nos partenaires américains, de prendre en main, en responsabilité, notre sécurité.
Le président de la République, après au moment de la conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, et juste après le coup de fil, a dit qu'il espérait d'autres rencontres, à la fois bipartites, tripartites, voire quadripartites. Le quadri, on a bien compris que c'était nous, les Européens, qui allions rentrer dans la conversation. Le bipartite, il pense à quoi ? Est-ce qu'il faut que Trump retourne à la charge avec Poutine ? Est-ce qu'il faut pousser, et ça c'est le rôle de l'Europe, pour que Zelensky et Poutine arrivent à se rencontrer ? Le bipartite, le premier bipartite, il est quoi dans un monde idéal ?
Alors, tous les efforts diplomatiques déjà doivent être soutenus. Il y a eu l'échange entre le président Trump et le président Poutine, et force est de constater qu'aujourd'hui, celui qui n'y répond pas dans les actes, c'est le président Poutine qui continue la guerre et donc qui n'a pas répondu aussi à la demande du président Trump. Et si demain, on a un sommet entre les Ukrainiens et les Russes, vous savez, une fois de plus, le président ukrainien a dit à nombreuses reprises qu'il y était prêt. Il l'avait dit d'ailleurs à Istanbul, rappelez-vous, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le seul qui se dérobe à la diplomatie, c'est Vladimir Poutine.
Il y aura eu donc six dernières semaines, une photo à Anchorage, une photo à Washington, une autre à Pékin, une autre à Paris. Au bout du compte, il y a des choses diplomatiques qui s'agitent sur le terrain. Objectivement, il ne se passe rien. Est-ce que vous y croyez un cessez-le-feu rapide, Benjamin Haddad, sincèrement ? Est-ce que ça a du sens d'imaginer un cessez-le-feu rapide ?
C'est notre objectif. Ce que je constate en revanche, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'y refuse toujours. La Russie continue les bombardements. Et donc, la diplomatie, qu'est-ce que c'est ? C'est un dialogue qui s'appuie sur un rapport de force. Donc, il faut faire augmenter la pression sur la Russie. On a fait adopter le 18e paquet de sanctions européens, largement sous l'impulsion de la France, pour accroître la pression, notamment sur le secteur
énergétique. Il y en aura un 19e, on se demande ce qui reste encore à sanctionner.
On travaille sur le 19e. Les Américains eux-mêmes ont fait augmenter la pression, notamment à travers les sanctions secondaires. Et on devra continuer.
Vous avez raison, mais 19 paquets de sanctions, ça veut dire que ça ne fait pas peur à Poutine.
Non, je vais vous dire, la première chose que demandent les Russes dans toutes les négociations, c'est la levée des sanctions. Donc ils ne se précipiteraient pas pour demander la levée des sanctions, ça n'avait pas un impact sur leur économie ou entraverait leur effort de guerre. Mais ce qui est vrai, c'est que les Russes se sont adaptés. Par exemple, l'utilisation de la flotte fantôme pour pouvoir, en mer Baltique ou en mer du Nord, contourner les sanctions, eh bien, nous-mêmes, notre régime de sanctions s'est adapté. Donc, il y a toujours des contournements, il y a toujours une adaptation permanente dans la pression économique qu'on doit mettre sur la Russie.
Il y aura forcément une suite, il y aura d'autres photos, il y aura d'autres moments. On sera ravis de vous retrouver à nouveau dans Un jour dans le monde, Benjamin Haddad. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
Et je vous parle de Nigel Farage, meilleur surfeur de la vague anti-migrant qui déferle au Royaume-Uni. C'est dans un instant.
Allez, là, c'est juste après ça. What you mean, what you mean?
give it to me. You gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop looking us, tell me to my face, here for it now. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. What you mean? What you mean? Say what you mean to me. Good thoughts and it shows, by the bits they grow. Jealousy no more, that must have been controlled. Green eyes and they bold, coming from my goal. Grip, grip, it holds, the certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring, the must have been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring, it's knocking, it's important. Let the rhythm reach your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of.
Green Tea Peng, Watchamen, Mean, dans la playlist de France Inter, c'est aussi le choix de Djoubaka, qui programme un jour dans le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Pourquoi, Louise, l'ex-clown de la vie politique britannique, c'est comme ça qu'on l'appelait, meilleur surfeur de la vie anti-migrant, pourquoi Nigel Farage pourrait bien s'installer au 10 Downing Street?
Oui, Nigel Farage, 61 ans, dont deux décennies de show permanent sur la scène politique britannique. Ses mimiques, cigares et pintes de bière à la main, ses chaussettes Union Jack et ses propos sans filtre sur les étrangers. Longtemps, Mr. Brexit a amusé ou irrité, c'est ce long, mais sans jamais vraiment faire peur. Il est désormais l'opposant numéro 1 de Keir Starmer. Élu à sa 8e tentative aux communes il y a un an, après avoir opéré un comeback fracassant, le champion de l'europhobie, figure majeure de la campagne du Brexit, s'est reconverti dans la xénophobie, secteur encore plus porteur. Son parti Reform UK caracole en tête des sondages. Plus de 30% des intentions de vote. Il était à moins de 15 il y a un an. Alors Nigel Farage au pouvoir, oui, c'est possible, grâce à un phénomène qui frappe toutes les démocraties européennes, la fragmentation du paysage politique. Le Royaume-Uni n'est pas mieux protégé des extrêmes que ses voisins continentaux, c'est nouveau. Et cela ouvre à l'ex-trublion les portes du Number 10, le petit nom de la résidence officielle du Premier ministre.
Nigel Farage, on le disait, Louise, surfeur hors catégorie donc de la vague anti-migrants qui secoue le Royaume-Uni.
Oui, le Royaume-Uni comme l'Europe continentale qui célébrera demain le 10e anniversaire de l'ouverture de ses frontières aux exilés syriens fuyant la guerre. 10 ans, autant dire une éternité. Depuis, l'Europe se claque-mure, mais jamais assez. Outre-Manche, comme ailleurs, la haine anti-migrants prospère. Depuis l'affaire Dipping début juillet, pas un jour sans manifestation devant un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Les routes et les ronds-points se couvrent de drapeaux nationaux portés par les vents anti-immigration sur fond de demandes d'asile records et d'immenses détresses sociales. Keir Starmer tente bien d'éteindre l'incendie en suspendant le regroupement familial, c'était lundi dernier. Mais les électeurs préférant l'original à la copie, Nigel Farage engrange les dividendes en promettant des expulsions de migrants par centaines de milliers, comme un certain Donald Trump.
Et donc le revoilà, lui, Donald Trump, qu'il a rencontré hier à Washington.
Oui, photo tout sourire dans le bureau ovale aux côtés du président américain. Après une audition à la Chambre des représentants consacrée à la liberté d'expression, Nigel Farage est allé y plaider la cause de deux héros de l'extrême droite britannique. Une assistante maternelle de Northampton qui vient de passer un an de prison pour un tweet appelant à brûler les hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, et un créateur de séries télé, auteur de messages contre les personnes transgenres. L'homme a été arrêté il y a quelques jours. « Mon pays est devenu la Corée du Nord », s'est exclamé Nigel Farage devant les députés américains. Nigel Farage applaudi par la sphère MAGA et sans doute congratulé par le président des États-Unis, qui ne manque pas une occasion de soutenir ses alliés idéologiques venus d'outre-Atlantique, les vieux amis, comme le Hongrois Viktor Orban et l'Italienne Giorgia Meloni, ou les plus récents, comme le nouveau président polonais Karol Nawrocki, reçu hier, lui aussi, dans le bureau ovale avec tous les égards par Donald Trump. Nigel Farage a eu droit, lui, à une petite photo, déjà pas mal pour l'ancien clown qui compte bien jouer les premiers rôles.
Louise Baudet, à demain, merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde retourne à New Delhi, dernier volet de la série. Peut-on nettoyer New Delhi, capitale la plus polluée du monde ? On a compris cette semaine que les déchets hauts comme des montagnes étaient un casse-tête, que les brûlés polluaient un air déjà irrespirable à cause notamment des gaz d'échappement. Ce soir, on s'approche du fleuve Yamuna, on s'approche de loin parce que cette eau est un véritable poison. Et le reste ce soir encore, c'est comme Bastin qui raconte.
C'est la mousson et les berges sont recouvertes d'herbes grasses. Face à l'eau qui s'écoule et rejoindra plus tard le Gange, trois hommes chantent leur amour pour ce fleuve sacré. Sacré mais aussi toxique, alors que 70% des eaux polluées de Delhi finissent dedans.
Quand j'étais jeune, je buvais l'eau de la Yamuna. Après avoir mangé, j'allais simplement me rafraîchir dans la rivière. L'eau était pure et transparente. Mais ces 30 dernières années, comme de plus en plus d'égouts s'y déversent, la qualité s'est complètement détériorée. Ça me rend très triste.
L'Allemand vit sur les berges. Pour gagner sa vie, il plonge dans la rivière pour chercher des métaux, malgré sa toxicité. Selon les autorités de Delhi, la pollution bactériologique issue des excréments y est plus de 3000 fois supérieure au seuil. Dans les bidonvilles proches, on n'a parfois pas d'autre choix que d'utiliser cette eau.
Ceux qui vivent au bord du fleuve sont très pauvres. Ce sont souvent des agriculteurs venus d'autres états. Comme moi, certains nettoient les abords. Sinon, personne ne le ferait. Mais pour purifier l'eau de ce fleuve, qui est sacré pour nous les hindous, il faudrait arrêter d'y déverser les égouts de Delhi.
Notre plongeur est volontaire pour l'ONG Les Amis de la Yamuna. Ashok, son fondateur, a fait revivre une forêt près des berges, où des oiseaux trouvent désormais refuge. Il regrette cependant que les politiques n'agissent pas.
Vous voyez cet égout ? Ce sont les eaux usées du centre de Delhi, avec celles des grandes institutions comme la Cour suprême qui s'y déverse. L'eau est soi-disant traitée, mais regardez sa couleur et sentez son odeur. Il y a au moins 25 canalisations géantes qui finissent comme ça dans la Yamuna. Celle-ci est une des plus petites.
Qu'est-ce qui fait finalement que les différents gouvernements ne font rien comme ça ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ou quelque chose de plus structurel lié à la corruption ?
La corruption est importante, mais ce sont aussi les citoyens qui ont arrêté de se soucier du sort du fleuve. Les politiques et industriels se sentent donc les mains libres pour polluer. Il n'y a pas de révolution tant que le peuple ne s'en mêle pas. À Delhi, tout le monde est malade. C'est une ville hôpital. Ne la laissons pas devenir une ville cimetière.
Le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le BJP, élu en février 2025 dans la capitale, a promis des stations d'épuration tout le long de la rivière. Mais il n'y a pour l'instant pas trace de travaux. Ousmane, 29 ans, se rend ce jour-là dans un temple sur les berges. Il est très inquiet pour l'avenir du fleuve et de sa ville.
L'eau est plus transparente ces jours-ci, mais c'est grâce aux pluies, pas aux politiques. Il y a encore quelques années, Delhi était une ville verte. Mais il y a tant de constructions incontrôlées, de nouvelles résidences et de centres commerciaux climatisés. On devrait pourtant faire quelque chose, c'est la capitale de l'Inde.
Delhi pourrait bientôt devenir la ville la plus peuplée de la planète. Et elle subit aussi des vagues de chaleur de plus en plus intenses. Ce monstre urbain court vers la catastrophe en l'absence, pour l'instant, de politique à la mesure du danger.
comme Bastin. Merci beaucoup pour la série de reportages. Vous revenez quand vous voulez. La suite, c'est aussi un plongeon, mais sous les radars, Guillaume Audin.
Oui, un David contre Goliath entre l'Indonésie et la Suisse.
La tech la première, Stéphane Jourdain.
Ne laissons pas l'IA gagner la bataille de l'intime.
Allez, à tout de suite. Dans Un jour dans le monde, on fait une petite escale du côté de la Motown avec Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire mon petit bois me l'a dit. Mais non, ça veut dire mon petit bois me l'a dit, patate. Marvin Gaye, I heard it through the grip.
Petit doigt, à travers
Vine,
la ligne.
Voilà, c'est exactement ça ce que je voulais vous dire. Allez, Guillaume Audin, là, pour passer sous les radars.
133 Wähler in Bad Liebspringe müssen ihre bereits durchgeführte Briefwahl
wiederholen. En Allemagne, Guillaume, une étrange série de décès secoue le pays, celle de candidats d'extrême droite aux élections municipales.
Et l'une des morts les plus récentes a eu lieu à Bad Liebspringe, une petite cité bourgeoise, tranquille, connue pour ses stations thermales, et désormais pour le décès soudain, a priori d'origine naturelle, du candidat AfD à l'élection municipale. Elle a lieu dans 10 jours, cette élection, comme d'ailleurs dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'un des 16 Länder d'Allemagne, où c'est deux dernières semaines, tenez-vous bien, coup pour coup, 6 candidats étiquetés extrême droite ont en effet trouvé la mort dans différentes villes. Alors, pas de trace de crime, dit la police. L'un des candidats s'est d'ailleurs suicidé, mais cette vague de décès enflamme Outre-Rhin. Alice Wedel, la patronne de l'AFD, évoque par procuration sur le réseau X un événement, je cite, statistiquement impossible. Elle laisse planer le doute, la complosphère prend le relais. On empêcherait l'extrême droite de participer aux municipales dans cette région la plus peuplée d'Allemagne, 18 millions d'habitants. Un test électoral crucial pour le chancelier Merz, arrivé aux affaires en avril dernier, et déjà au plan national, dépassé dans les sondages par l'AFD, premier parti d'opposition.
Et nous sommes maintenant sur l'île de Paris, c'est en Indonésie. Voici un pêcheur terrifié à l'idée de voir son habitat bientôt disparaître sous les eaux.
Oui, car selon les projections, cette toute petite île pourrait être engloutie d'ici à 10-15 ans, en raison du changement climatique. Auparavant, ce confetti en mer de Java subissait des submersions marines deux fois par an. Aujourd'hui, c'est plus d'une douzaine de fois chaque année. Les plages disparaissent et aussi les écosystèmes et les poissons sur cette île qui vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Les habitants auraient pu en rester là, sauf qu'ils vont écrire une nouvelle page de leur histoire à 11 000 km de leur archipel, Azougue, en Suisse, qui abrite le siège de l'entreprise Holcim. C'est un géant du ciment, l'un des 50 premiers pollueurs au monde. Il a opéré en Indonésie jusqu'en 2019. Et dans cette bonne ville de Soug, en Suisse, une audience s'est tenue ce mercredi au tribunal cantonal. Première audience d'un remake de David contre Goliath et qui voit quatre habitants de cette île minuscule attaquer un mastodonte de l'économie mondiale. Que demandent-ils ces plaignants? C'est là que l'histoire est belle. À peine 3 800 euros chacun, pas plus. Juste de quoi s'adapter, mais surtout, ils veulent que la justice helvétique contraigne cette entreprise Holcim à réduire de 43% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Sur cette petite île, les habitants pensent à vous, à moi et à toute la planète. On a très envie qu'ils gagnent.
Et touchdown, c'était en février dernier, Guillaume, en finale du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans.
Voilà, et audience record, 127 millions de téléspectateurs, victoire des Eagles de Philadelphie, 127 millions, c'est vachement bien, mais ce n'est pas assez pour la Ligue de football américain, la NFL, qui pour la première fois de son histoire délocalise son championnat hors des États-Unis et programme 7 matchs sur 3 continents cette saison, Brésil, Espagne, Allemagne, Australie. Le but, c'est de concurrencer la première ligue anglaise, le foot à l'ancienne, qui génère 5% de ses revenus à l'étranger, 50% de ses revenus à l'étranger, pardonnez-moi, à peine 2% pour la NFL. On voit bien la stratégie de conquête du monde. Le but aussi, c'est que vous, Fabienne, un de ces jours alliez au stade manger des chicken wings devant votre équipe préférée, les 49ers.
Voilà.
C'est ça ?
Donc je suis obligé, c'est ça l'idée.
Vous êtes obligé,
sinon, vous ne nous aimez plus. Moyen. C'est très long. C'est très long, les matchs. Allez, à demain. Merci beaucoup.
France Inter, le 18/20.
Et le jeudi, c'est la Tech, la première avec Stéphane Jourdain. Vous nous parlez d'une prise de conscience générale, Stéphane, après l'affaire du suicide d'un ado américain qui se confiait à ChatGPT. Ces IA ne servent pas qu'à traduire des emails, à synthétiser des rapports indigestes ou à produire des morceaux de musique un peu rigolos ou jouer avec ma voix, Stéphane.
Oui.
On se confie à elle et elle s'identifie, elle s'immisce, elle s'instille dans notre intimité.
Oui, le suicide de cet ado de 16 ans en avril et la plainte de ses parents contre ChatGPT il y a une semaine agissent comme un électrochoc, une prise de conscience sur les dangers potentiels de ces IA, bien sûr, mais aussi et surtout sur l'usage que nos ados en font, un usage qu'on n'aurait jamais soupçonné quand ChatGPT est apparu, quand les jeunes s'en servaient pour faire leurs devoirs, rappelle Mathias Dufour, fondateur de Le Plus Important, think tank dédié aux défis sociaux posés par le numérique.
On n'avait pas anticipé que ChatGPT deviendrait le psy de millions de personnes et en particulier le psy de centaines de milliers, voire de millions d'adolescents. On peut comparer ça à une révolution silencieuse de par l'ampleur que ça a. C'est un peu un tsunami dans un angle mort aussi, si vous voulez une autre expression. Pour une raison simple aussi, c'est que les gens utilisent l'IA à des fins thérapeutiques parce qu'ils n'ont pas besoin d'en parler aux autres. Beaucoup d'adolescents les utilisent sans en parler à leurs parents.
Une révolution silencieuse qui rappelle l'arrivée de Facebook, Instagram ou TikTok dans les smartphones des adolescents. Il a fallu des années pour comprendre l'effet parfois délétère de ces réseaux sociaux sur leur santé mentale. Et Justine Cassel espère qu'on mettra moins de temps à comprendre les ravages que peuvent causer les éditeurs d'IA. Cette chercheuse franco-américaine travaille sur l'interaction entre chatbots et humains depuis 1994.
Évidemment, ils vont dire que c'est en partie la responsabilité des parents, comme avec des social media. Espérons que ça ne prend pas aussi 10 ans pour comprendre l'impact possible de ces chatbots.
En début de semaine, un ingénieur d'OpenAI me disait que cette affaire de suicide touchait beaucoup les employés d'OpenAI. L'entreprise de San Francisco a depuis annoncé la mise en place d'un contrôle parental pour les mineurs.
Le problème, Stéphane, de ces chatbots, c'est qu'ils sont donc addictifs et que la plupart des jeunes ne savent absolument pas comment ils fonctionnent.
En France, 4 jeunes sur 10 utilisent un chatbot IA quotidiennement et parmi eux, près d'un sur deux l'utilisent pour discuter juste pour le plaisir. Mais combien connaissent les principes de fonctionnement de ChatGPT, ce perroquet probabiliste qui enchaîne froidement les mots les plus probables en fonction de la question que vous lui posez? Sébastien Henry, de l'Observatoire psychosocial du numérique.
Les enfants, en fait, qui utilisent ces chatbots, les utilisent probablement sans en connaître véritablement le fonctionnement. ChatGPT ne comprend pas ce qu'il vous dit. Ça, c'est important aussi d'expliquer aux adolescents, c'est qu'en fait, un chatbot produit des mots qu'il ne comprend pas.
1. ChatGPT ne comprend pas ce qu'il écrit. 2. Il est conçu pour faire durer la conversation le plus longtemps possible, comme le souligne Mathias Dufour.
Les IA sont entraînées et conçues pour maximiser le temps que les gens passent avec elles. Elles confortent les gens dans leurs croyances, précisément parce que c'est un moyen d'entretenir la conversation. Et c'est ça qui est la source de toutes les dérives.
Les IA confortent les gens dans leurs croyances, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. Justine Cassel.
En essayant de faire durer la conversation, la réponse la plus facile pour le chatbot, c'est oui, dites-moi-en davantage.
Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des discussions qui peuvent durer des mois, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le psychologue Sébastien Henry.
ChatGPT, il est toujours de bonne humeur. On peut lui poser une question à 3h du matin, on peut lui poser une question en milieu d'après-midi. Il vous répond toujours sympathiquement. Donc ça, c'est agréable, hein, surtout si on a des adolescents qui sont un peu seuls, un peu exclus. Ben effectivement, ça fait une présence.
Tout le temps sympathique, c'est agréable, n'est-ce pas Fabienne ? Bienvenue dans ce que notre psychologue appelle un cercle vicieux de solitude.
Le sentiment de solitude des adolescents initial qui peut les conduire à poser des questions sur le chatbot, et ben finalement va être entretenu par le chatbot et on risque d'avoir donc des adolescents qui vont s'enfermer dans un cercle vicieux de solitude. ChatGPT va développer une dépendance émotionnelle qui va faire passer de plus en plus de temps sur le chatbot au lieu d'aller voir des gens à l'extérieur.
Voilà, la solitude qui se marie pas mal avec le capitalisme de la tech.
Oui, une note de la Fondation Jean Jaurès qui vient de paraître montre comment le capitalisme de la solitude profite aux plateformes numériques. L'étude parle des réseaux sociaux, de Tinder, de Deliveroo et même de Petit Bambou. Elle ne cite pas les intelligences artificielles, mais elle aurait pu. Dans une autre étude qui vient de paraître, un jeune Américain sur 4 déclare avoir déjà interagi avec une IA romantique. Plus de 40% des sondés jugent que les IA sont plus faciles à aborder et plus à l'écoute qu'un vrai partenaire humain.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour limiter la casse ?
Il faut soulever le capot de ces IA et éduquer. Justine Cassel.
Il est temps que les écoles arrêtent de faire l'autruche et nous dire qu'il faut interdire ou qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut qu'ils commencent tout de suite à apprendre aux jeunes ce que sont ces chatbots, la technologie derrière et l'économie de la chose.
Et puis, il faut réguler, bien sûr, et vite, selon Mathias Dufour.
On ne laisserait pas des médicaments être diffusés à n'importe qui sans avoir vérifié leur innocuité. Bon, là, on a des outils qui font fonction de professionnels de santé et donc il est légitime de leur appliquer un temps de règles. Voilà, je pense que c'est du bon sens.
Du bon sens qui ne plairait ni à Elon Musk, ni à J.D. Vance.
Voilà, et ni à Trump non plus d'ailleurs. Merci beaucoup, Stéphane Jourdain. À la semaine prochaine.